Ça t'arrive à toi de parler de toi à la troisième personne? Par exemple, quand ta grand-mère là te fait un bon repas, tu dis après, il est très content. Non, ça arrive parfois lorsqu'on est détenteur d'une fonction un peu prestigieuse et qu'on veut marquer justement que cette fonction nous dépasse, qu'on prend un certain retrait. Il y a des exemples célèbres. Vous parlez au Premier ministre de la France. Je pourrais dire, c'est le curé de la compassion qui vous dit ça. Il y a même des études qui prétendent que ça réduit le stress. Quand on se parle à soi-même à la troisième personne, il paraît que ce serait bon pour l'équilibre émotionnel. Ils essayeront. Jésus parle de lui à la troisième personne. Il dit le Fils de l'homme, c'est de lui qu'il parle. Et il utilise un titre qu'on appelle un titre messianique, qui a été révélé par les prophètes. Et la question que nous devons nous poser, c'est de savoir quelle était véritablement la conscience qu'il avait, pas seulement d'être au-delà d'un prophète, d'être Dieu. Jésus savait-il vraiment qu'il était Dieu lui-même? Avait-il pleinement conscience de sa divinité? Est-ce que ça le dépassait? Est-ce qu'il s'en est aperçu? Comment ça s'est passé pour lui? C'est une question qui a été très longtemps, très souvent disputée, et qui est très importante pour que nous puissions comprendre le mystère, y compris de notre propre humanité. Dans ce passage d'Évangile aujourd'hui, il montre en tout cas la conscience qu'il a de sa mission, avec l'emploi de ce titre prophétique, et avec l'annonce de sa mission, et même l'annonce extrême, jusqu'où sa mission va le conduire, jusqu'à la mort. La mort et la résurrection. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Il va être livré. Saint Paul, dans la lettre aux Galates, dit « il s'est livré lui-même ». Il dit cela dans un passage admirable, justement sur ce qui est pour nous le changement intérieur de la foi. Il dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, en ma personne, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui m'a tellement aimé, qu'il s'est livré pour moi. C'est ça la foi qui nous réunit. C'est de croire que Jésus est Dieu. C'est ça, ça suffit pour être baptisé. Qu'est-ce qu'il faut pour être baptisé? Croire que Jésus est le Christ, Dieu. C'est ce que nous professons quand nous viendrons tout à l'heure communier. Le corps du Christ, Dieu lui-même. Amen, je le crois. Et cette conscience par Jésus de sa propre divinité, c'est le cœur même de notre foi. La semaine dernière, quand Pierre répondait à Jésus, « Tu es le Christ !»« Tu es le Christ !» Évidemment qu'il ne lui révèle pas. Mais surtout, comment le sait-il? Comment peut-il le professer? Parce qu'il est en face de lui. Parce que c'est en sa présence que justement nous redécouvrons. C'est en venant à l'Église, en écoutant la parole de Dieu, en le contemplant, en cherchant à mieux le connaître, que notre foi grandit. En ce moment, depuis plusieurs mois d'ailleurs, je lis un livre surpuissant. Par petite dose, trop fort, c'est trop lent pour les... Je vais prendre une image que certains vont comprendre. C'est comme un vieux cognac. Ça se déguste très lentement. C'est un livre du père Maurice Zindel. C'est la retraite au Vatican qu'il a prêché dans les années 70. Père Maurice Zindel était un spirituel connu. Et en janvier 72 exactement, il reçoit un coup de fil du Vatican. Et il dit, père, ce serait bien si vous veniez le mois prochain pour prêcher la retraite au pape et à toute la curie. Un mois après, 22 instructions à donner, c'était ça traditionnellement, 22 conférences à faire, à préparer, vous avez un mois. Alors, il le dit dans l'introduction de ce livre, ça a été publié sous le titre « Quel homme et quel Dieu ?» Là, pour le coup, je peux m'exclamer, « Quel livre ?» Mais « Quel homme et quel Dieu ?» Ça, s'il y a un livre à déguster lentement, c'est celui-là. Et il le dit, j'avais du travail, je n'avais pas accès à faire, je ne pouvais pas me dédier, pas m'arrêter pour tout préparer, je ne pouvais donc qu'improviser. Improviser devant l'auditoire le plus auguste du monde. Qui sait si ce n'est pas en vue d'une circonstance comme celle-ci que tu es arrivé jusque-là? On lit ça dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Esther. Il y Il y a un moment où on lui dit, peut-être qu'en fait, tout ce que tu as vécu, c'est pour arriver là, pour arriver à ce point-là. Dans le cas de Zindel, il y a en face, il y a quand même Paul VI, qui va être canonisé le mois prochain, et il est évident qu'ils vivent cela ensemble dans l'Esprit Saint. Cette semaine, je suis allé voir mon vicaire général, l'évêque auxiliaire, et il m'a rappelé, il m'a donné un bon conseil, et je ne vous en fais pas, il m'a dit, souviens-toi toujours, quand tu discutes avec quelqu'un, qu'il y a le même Esprit Saint dans la personne qu'en toi. C'est un bon conseil à garder. Quand on discute avec quelqu'un, il y a le même Esprit Saint dans la personne en face qu'en nous. Ça devrait quand même exiger, contrairement à ce qu'on lit justement dans la lettre de Saint-Jacques dans la deuxième lecture, que nous puissions faire un effort pour avoir moins de conflits, moins de divisions entre nous. C'est le même Esprit Saint qui nous réunit. Et donc dans ce livre de Zindel, « Quel homme et quel Dieu ?», il y a un chapitre qui est consacré justement à la conscience que Jésus avait d'être Dieu. Et il explique pourquoi. Il y a des textes de l'Évangile qui nous confrontent nettement dans un langage biblique avec l'absolu divin. Il y a des textes, pour le dire de façon plus générale, il y a des textes de l'Évangile qui seraient incompréhensibles si ce n'était pas Dieu en personne qui s'adresse à nous. Et Zindel évoque, par exemple, les paroles de jugement. L'autorité avec laquelle il parle. La rémission, la façon dont il pardonne les péchés, dont il ressuscite les morts. L'amour inconditionnel qu'il attend de nous, au-delà de tout l'amour humain qu'on peut porter à ses plus proches. L'amour inconditionnel, seul Dieu peut porter une telle exigence. Et à côté de ces textes, il y a d'autres textes qui montrent Jésus, il le dit lui-même, inférieur au Père, le Père est plus grand que moi. Limité, dépendant, ignorant du jour et de l'heure, ne pouvant pas donner aux apôtres les places qu'ils ambitionnent, et puis surtout, livré à la passion et à la croix. Et on dit, à juste titre, que les premiers textes manifestent sa divinité, les autres son humanité. Et pourtant, c'est la même personne, c'est le Christ Jésus qui parle et qui agit. Et Zindel dit, comment dès lors concilier? Comment comprendre ce rapport entre des textes qu'on peut dire de majesté, des textes de majesté qui sont écrits dans un langage biblique, et des textes d'abaissement qui sont écrits, dit Zindel, si on peut dire, dans un langage évangélique. C'est ça le trait évangélique, c'est la capacité d'abaissement de la majesté. Et le père Zindel reprend les réflexions d'un dominicain qu'il avait entendu un jour en passant à Londres, de même que moi aujourd'hui je reprends les réflexions du père Zindel, parce que nous n'avons pas besoin dans l'Église d'être créatif et original, d'être inventif sur le contenu de la foi. Nous transmettons effectivement la réflexion des uns et des autres, de la tradition. Et le père Zindel propose de distinguer quatre types de connaissance en Jésus, divine, béatifique, prophétique, expérimentale. On va mettre de côté la connaissance divine qui a trait à sa divinité et attachons-nous à ces trois modes de connaissance parce qu'ils vont nous éclairer sur ce que nous avons à vivre, ils sont propres à la nature humaine. La connaissance béatifique, c'est la récompense de la vie éternelle. Nous ne la connaîtrons, nous l'espérons, on va dire au mieux, nous la connaîtrons après la mort, c'est ce que nous espérons. De voir Dieu de nos yeux, d'être comblé par la vision de Dieu. Eh bien, cette vision béatifique, cette connaissance béatifique, Jésus l'avait de son vivant. L'âme humaine de Jésus vivait dans ce face-à-face permanent avec son Père. C'est la vie intérieure de Dieu que l'on peut voir d'ailleurs dans l'Évangile, qui est le secret. Il était conscient, il avait la connaissance du secret de sa vie. Quand je suis rentré au séminaire, j'ai eu mon premier père spirituel, qui était un homme âgé, qui ne manquait pas d'humour. Il avait été le secrétaire du cardinal Marty. Et puis, quand on lui posait une question difficile, les entretiens avec lui étaient très courts. Quand on lui posait une question difficile, par exemple, un de mes copains lui avait dit, lui posait une question sur l'Esprit Saint, il avait répondu, tu lui demanderas quand tu le verras. La deuxième raison pour laquelle Jésus avait humainement conscience d'être Dieu, vient justement de sa connaissance, de sa conscience, de sa mission. C'est ce qu'on a entendu dans l'Évangile, là. C'est la phrase sublime qui résume tout lorsqu'il dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Cela montre à quel point il était parfaitement conscient, non seulement de sa mission, nous appelons ça une connaissance prophétique. Il avait conscience de ce qu'il annonçait et de le vivre lui-même. C'est pas venu sur le tard. C'est même pas venu au moment de son baptême par Jean-Baptiste. À l'âge de 12 ans, dans le temple, il dit à ses parents, « Ne savez-vous pas que je dois être auprès de mon père, aux affaires de mon père ?» Et puis, disent un d'elles, il faut admettre en Jésus une connaissance qui n'est ni divine, ni béatifique, ni prophétique, une connaissance expérimentale. C'est ce que nous vivons tous les jours, connaissance naturelle d'ordre sensible. C'est le propre, effectivement, de notre humanité. Nous, ensuite, on peut effectivement la rationaliser, conceptualiser à partir de là. C'est le premier mode de connaissance, la connaissance expérimentale. Cette connaissance, évidemment, Jésus était bénéficié de toutes les lumières de son intelligence. C'est ce qui montre sa finesse infinie. Mais il n'est pas exclu qu'une scission ait pu se produire à certains moments entre les niveaux supérieurs de sa connaissance et ce niveau sensible, expérimental, et que parfois, Jésus lui-même n'ait plus éprouvé le sentiment de son union avec Dieu. Nous pouvons admettre que Jésus, à certains moments tout du moins, a pu ne pas être conscient de sa divinité. Je pense en particulier à certaines de ses exaspérations à l'égard de ses disciples. « Combien de temps est-ce que je vais devoir encore être avec vous, vais-je devoir vous supporter ?» Mais surtout, nous pensons tous à son angoisse devant la mort. Nous avons tous, propre à l'être humain, cette connaissance expérimentale, cette connaissance sensible, mais profondément inscrite dans le cœur de l'homme, ce sentiment que nous sommes appelés à l'immortalité, appelés à la vie éternelle, d'avoir en nous un germe d'éternité. Par notre baptême, cette connaissance expérimentale prend une dimension nouvelle, ce que nous appelons justement cette dimension prophétique. Nous avons conscience d'un lien particulier avec le Seigneur. Cette connaissance prophétique, elle est partielle. Si vous relisez l'hymne à l'amour de saint Paul, juste après il le dit, l'amour ne disparaîtra jamais. Les prophéties seront dépassées. L'amour ne disparaîtra jamais. Mais cette connaissance prophétique, c'est ce qui nous réunit, elle est nécessaire, c'est pour cela que nous venons à la messe. Pour que nous n'en restions pas simplement au stade sensible expérimental, que nous vivions notre mission d'enfant de Dieu. Parce que la connaissance prophétique est le passage obligé entre la connaissance sensible et la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas du spéculatif, c'est extrêmement concret comme le montre Jésus dans l'Évangile. C'est ce qui nous rend capables d'accueillir les plus petits d'entre nous. Il prend l'exemple avec un enfant, c'est vrai avec un pauvre, c'est vrai avec un malade, c'est vrai avec tous ceux qui sont déshérités, exclus. Cette capacité prophétique qui consiste à reconnaître en toute personne la présence de Dieu. C'est ça qui est immense. C'est grand. À tous ceux qui doutent, tous ceux qui, particulièrement ce temps de rentrée avec cette actualité, peuvent déprimer. Voyez cela, la grandeur de ce qui nous est donné de vivre. C'est ainsi, c'est en suivant le Christ, c'est en le reconnaissant dans nos frères que nous reprendrons vraiment goût à la vie.